Voici le lycée de Sékou.
La fiction radiophonique.
Écrite et interprétée.
Par les 4e C.
Du collège Pierre de Rossard.
Sous la houlette.
De Fabienne et Christophe.
Je m'appelle Sékou, j'ai 16 ans et ma sœur Tiki Donki en a 12. Quand j'avais 14 ans, nous habitions en Guinée, dans un petit village, au bord de la mer, à mi-chemin entre Conakry et Dubreka. Notre famille avait peu de moyens. Il y avait eu la sécheresse et les vaches, comme nos poules, étaient toutes tombées malades. Pas de récolte. Ni riz, ni maïs. Nos vaches, nos poules et nos chèvres mouraient les unes après les autres. Nous n'avions plus rien à manger. Nous n'avions plus d'argent non plus. La famille était très nombreuse, trop selon mon père, qui avait décidé de marier ma sœur précocement pour obtenir une dot qui permettrait de faire manger tout le monde pendant au moins 6 mois. Une nuit, ma mère est venue dans notre chambre et m'a secouée doucement.
C'est cool, Tiki Donki, les enfants, réveillez-vous.
Mais il fait encore nuit.
Chut, ne fais pas trop de bruit, vous ne devez surtout pas réveiller votre père ni personne d'autre d'ailleurs. Nous avons peu de temps et il faut bien m'écouter. Papa a décidé de marier Tiki Donki avec notre voisin qui a perdu sa femme le mois dernier.
Mais il est très vieux et je vais pas me marier moi, je suis trop petite.
Je sais bien mon ange, mais il a promis une grosse somme d'argent à papa et à la moitié de son bétail en échange de ta main. Vous savez que nous n'avons plus rien, c'est pour ça qu'il faut que tu partes vite.
Ma tante Fatou, la sœur de ma mère, nous accompagnerait avec sa petite Aminata jusqu'en France où nous retrouverions nos cousins à Paris. Le mari de ma tante avait eu lui aussi la même idée que mon père pour obtenir de l'argent facilement, vendre sa fille. Maman avait déjà préparé toutes nos affaires.
Toutes les femmes de la famille ont donné le peu d'argent qu'elles avaient. Il y a juste assez pour payer aux passeurs votre voyage.
Nous étions encore un peu endormis quand nous avons pris la route. La lune n'offrait qu'un croissant lumineux. C'était vraiment difficile de marcher sans rien voir. Le moindre fossé, le moindre caillou devenait un piège. Nous n'étions qu'au début du voyage. Ce n'était vraiment pas le moment de se blesser. Nous sommes parvenus tant bien que mal jusqu'à la route goudronnée. Et là, nous avons attendu le jour que des voitures passent. À la première qui s'est présentée, nous avons sauté sur la route pour l'arrêter. Le chauffeur nous a pris jusqu'à Conakry.
Tante.
Tante.
Ibeta Laminto.
Conakry.
Nadja.
Nous étions bien perdus dans cette grande ville. J'avais sur le dos un baluchon contenant mes affaires et celles de Tiki Donki, que je tenais fermement par la main, tant j'avais peur de la perdre dans cette foule bruyante et agitée. Ma tante pliée sous le poids de son sac et sa fille qui refusait de marcher. À force de demander notre chemin, nous sommes parvenus à la gare routière. Ma tante a sorti de son boubou 2 enveloppes. Elle a prélevé un billet de chacune pour acheter nos tickets de bus. Nous nous sommes effondrés sur nos sièges et nous avons regardé défiler les 800 km et les villes qui nous séparaient de la frontière. Kindia, Mamou, Dabola, Dinkiraye, Segiri, Doko et enfin Kouremole. Là, le voyage changeait de nature. Nous nous apprêtions à entrer en clandestinité. Nous avions réussi à dormir, bercés par le quinca de la route, et à récupérer des forces. Mais la peur nous tétanisait. Nous devions attendre la tombée de la nuit pour retrouver, à la sortie de la ville, nos passeurs. C'était eux qui s'occuperaient de la poursuite de notre périple jusqu'en France. On les payait pour ça, et cher, selon les dires de ma tante. Il fallait les attendre cachés derrière un hangar désaffecté en bord de route. Tiki Donki et Aminata n'arrêtaient pas de pleurer.
Je veux rentrer au village, je suis fatiguée.
Je veux voir maman. Je veux pas aller en Europe, moi.
Fatou a pris les filles contre elle et a commencé à fredonner tout doucement. J'ai repris avec elle cette berceuse que je connaissais par cœur, puisque c'était celle que ma maman nous chantait pour nous endormir depuis toujours. Au fur et à mesure que les heures passaient, des gens arrivaient et s'installaient à quelques mètres de nous, tête baissée. Eux aussi transpiraient la peur. Un peu après la tombée de la nuit, nous avons entendu le vrombissement des moteurs. Trois pick-up se sont arrêtés devant le hangar. Leurs chauffeurs en sont sortis et nous ont hurlé de venir.
Venez vite, sortez votre argent, dépêchez-vous.
Ma tante a tendu l'une de ses enveloppes à l'un d'eux qui a compté les billets et d'un mouvement de menton nous a intimé l'ordre de grimper à l'arrière de l'un des véhicules. Nous nous sommes serrés en silence contre les occupants déjà installés. Avant de redémarrer, les chauffeurs ont tendu une bâche à l'arrière de chaque voiture, nous dissimulant totalement, mais laissant passer bien peu d'air. Et nous avons ainsi passé la frontière pour pénétrer au Mali. Nous roulions toujours de nuit pour échapper au contrôle, près de 10 heures d'affilée. Et à l'aube, on nous faisait descendre des voitures et on nous abandonnait jusqu'au soir avec un peu d'eau et de nourriture. Il nous a fallu 12 jours pour traverser le Mali, puis le sud de l'Algérie, et enfin remonter toute la Libye jusqu'à Tripoli. Nous empruntions tantôt des routes goudronnées, tantôt des pistes en terre.
On dit qu'il faut faire attention aux soldats. Il paraît qu'ils t'envoient direct dans des camps du gouvernement libyen et qu'on peut plus en sortir, sauf en payant.
Mais ils n'ont pas le droit.
Ils ont tous les droits, puisque le camp est financé par des Occidentaux qui ne veulent pas de réfugiés chez eux.
Le pire, c'est surtout les milices armées. On m'a raconté qu'ils t'arrêtent, t'enferment, te torturent. Il y en a qu'on n'a jamais revu.
Au fait, tout le monde se moque bien de ce qui peut nous arriver. On est que des migrants pour eux.
Pas mieux que des esclaves.
En pleine nuit, nous sommes arrivés dans la capitale libyenne. On nous a conduits jusqu'à une cave où nous devions attendre que de nouveaux passeurs viennent nous chercher pour nous conduire au bateau. Il fallait rester le plus silencieux possible. On a attendu 3 jours et 3 nuits. Le deuxième soir, nous avions assisté malgré nous, par le soupirail, à l'enlèvement d'une famille dans la rue. Des hommes armés avaient jailli d'un camion et s'étaient rués sur eux. Ils avaient frappé le père et les avaient tous jetés à l'arrière du véhicule. Le tout n'avait duré que quelques minutes. Le lendemain, 3 types sont venus nous sortir de cet enfer. Enfin, c'est ce que nous avons cru. Mais le pire était à venir. L'obscurité était totale dans le ciel quand nous sommes arrivés sur la plage. Fatou a donné la dernière enveloppe d'argent aux passeurs qui collectaient le droit de chacun à accéder au rêve d'une nouvelle vie en Europe. Elle a conservé quelques billets dans ses sous-vêtements. Il faisait nuit, mais nous avons malgré tout compris que nous n'étions pas le seul convoi à prendre la mer. D'autres voitures, d'autres groupes, beaucoup trop de monde pour les 3 bateaux. Si l'on pouvait appeler ces ratios des bateaux. Les passeurs hurlaient, tout le monde paniquait.
Chou, Hassine Soura, Eslehou.
امشوا روح منا منا قود بلع بلع
امشوا قود برو امشوا
هيا هيا روح منا امشي يلا يلا امشي امشي
فاتو a pris sa fille dans ses bras.
Prends ta sœur par la main et surtout ne la lâche pas.
Ne t'inquiète pas, Tiki Danke. Elles sont devant, dans un autre bateau. On les retrouvera en arrivant en Italie.
Nous avons été emportés par une foule hurlante qui était poussée dans les embarcations par les passeurs. J'ai trébuché et nous sommes tombés tous les deux. En me relevant, ma tante et sa fille avaient disparu. J'ai couru avec ma sœur jusqu'au dernier bateau. Nous étions tassés les uns contre les autres et je me suis recroquevillé au centre du rafio, Tiki Danké serré entre mes genoux. Nous étions deux enfants, terrorisés, séparés pour la première fois de toute famille. Un jeune garçon, à peine plus âgé que moi, tenait la barre du bateau d'une main et une boussole de l'autre, des bidons d'essence à ses pieds. Les passeurs, restés sur la plage, ont poussé nos embarcations de fortune afin que nous quittions le rivage. Moi, je chantais notre comptine à ma petite sœur pour couvrir ma propre peur autant que la sienne. Les trois bateaux avançaient tant bien que mal les uns derrière les autres. Nous étions dans le dernier. On distinguait à peine les rafios devant nous. La lune avait fini par se lever et soudain de lourds nuages noirs ont annoncé la tempête à venir. Le vent s'est levé d'un coup et les vagues se sont creusées, ce qui a fait tanguer notre bateau bien trop cher. Au cri qui nous parvenait, nous imaginions que c'était pareil pour les deux autres. Des éclairs ont déchiré le ciel et éclairé une scène d'horreur. Les deux bateaux, devant affronter des vagues hautes comme les murs de prison et les propulsant à l'air comme des jouets qui basculaient dans des creux de plus en plus profonds. À chaque retombée, on entendait des craquements terribles, annonçant que les rafios allaient se briser. Puis, plus rien. Les bateaux devant nous avaient disparu dans le chaos. Nous avons survécu et gagné les côtes italiennes comme prévu, mais sans ma tante et Aminata. Comme dans un cauchemar, nous avons vécu un temps dans le camp de Lampedusa que nous avons réussi à quitter. Nous avons traversé l'Italie et une partie de la France pour nous retrouver à Limoges. Là, nous avons été accueillis dans un foyer pour mineurs non accompagnés.
T'as vu ? Il y a encore des nouveaux.
D'après toi, ils viennent d'où ?
Un des éducateurs nous a présenté au groupe de jeunes qui jouaient aux cartes dans un grand salon. Nous sommes allés nous installer dans nos chambres où nous nous sommes effondrés sur nos lits. Après des mois depuis notre départ de Guinée, nous avions l'impression d'être enfin au bout de notre long périple. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du directeur du foyer.
Les enfants ? Vous allez pouvoir appeler votre famille et leur dire que vous allez bien.
Nous n'avions pas voulu appeler avant afin de ne pas inquiéter maman. Fatou et Aminata avaient disparu et nous espérions encore les retrouver sur notre route. Là, nous étions au bout du voyage et nous avions vraiment besoin d'entendre la voix de maman.
Maman, c'est nous.
On va bien, mais on ne sait pas où sont Fatou et Aminata.
Ne vous inquiétez pas, elles sont à Paris et elles vous attendent.
Elles faisaient partie des rares naufragés qui avaient pu être sauvés par des gardes-côtes. Elles avaient réussi à regagner la France en traversant les Alpes à pied, puis Paris en stop. Nous allions les retrouver dès le lendemain.
T'as vu, c'est fou ? Il y a Fatou et Aminata là-bas.
Paris, la Tour Eiffel, c'est encore plus beau que dans mes rêves.
Journée nous attend. soldats.